je prends du plaisir à animer ce nouveau générique, effectivement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, nous sommes quatre pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Fabien.
Bonjour à tous.
Et de Dominique. Ah, tu n'as pas de micro.
Ben oui.
Alors, quel numéro, Dominique? Allez, vas-y. Allez, c'est plaisir, c'est bonheur.
Salut à tous.
Salut. Et aujourd'hui, pour animer cette aventure ludique que nous allons partager ensemble de 18h à 19h, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Aurélien et Steve.
Eh bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation.
C'est une seule personne, hein. C'est pas Aurélien et Steve.
Ah oui, et Steve, c'est ça.
Ça promet.
on monte le niveau ce soir. Et tu es parmi nous puisque dans cette aventure ludique, tu proposes actuellement un Kickstarter.
C'est ça. Mon jeu, je le lance bien en Kickstarter. Mon jeu s'appelle Jurassic Cats. C'est un jeu où il faut chasser des dinosaures avec des chats. Puisque tout le monde le sait, les meilleurs chasseurs de dinosaures au monde sont les chats.
Et voilà, on en parlera au détail tout au long de cette émission. Et... on adore les Kickstarter et c'est vrai qu'il y a toujours des challenges à lancer hein, comme ça. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à ce Kickstarter de Jurassic Cats? On n'en est pas très loin d'avoir le goal, le but ultime.
Alors le but ultime, eh bien, ça va permettre de lancer la mise en production. Le Kickstarter est lancé depuis une semaine, donc ça a très bien avancé. Là, ça se calme un petit peu parce que évidemment, au début, c'est tous les amis, toute la famille... eh bien, qui se lance, qui attendait ça depuis longtemps. Il y a aussi toutes les personnes qui ont pu tester le jeu lors de différents événements, lors des salons, par exemple le Ludinor où j'étais présent, ou par exemple le Ludouest. J'étais aussi au festival Demago à La Gorgue où le jeu a reçu le prix du jury. Donc toutes les personnes qui attendaient ce jeu avec impatience, eh bien, ont pu le prendre dès le début. Donc maintenant, voilà, ça se calme un petit peu, mais ça va se relancer et ça devrait le faire.
Et c'est là que ça devient intéressant.
C'est là que ça devient intéressant, voilà. Quand c'est trop facile, c'est, c'est lassant.
Après, c'est que le début, hein. Donc tu viens à peine de commencer. Ah,
excusez-moi. Je suis débutant. Si vous ne m'entendez pas bien, c'est normal. Donc en même temps, c'est que le début, ça vient de commencer. Donc là, le résultat, les objectifs sont quasiment atteints. Donc maintenant, il reste encore 21 jours, donc tout est à faire. Donc ça, c'est plutôt cool.
C'est ça, je continue, je croise les doigts.
Et tu t'attendais à ça comme résultat pour le lancement?
C'est toujours difficile justement de se dire en avance, voilà, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas réussir. Je vois que les Kickstarter en ce moment, c'est quand même assez compliqué. J'en vois beaucoup qui tombent à l'eau. Vraiment, les Kickstarter qui fonctionnent, ça va être des grosses campagnes américaines avec beaucoup de figurines. Donc vraiment, c'est ce que les gamers, les geeks attendent. Et les fans de Kickstarter, c'est ce qu'ils attendent. Ils veulent de la figurine, ils veulent des gros jeux qu'ils ne peuvent pas trouver en magasin. Et du coup, voilà, un jeu de cartes un peu plus familial, un peu plus simple. Voilà, c'est pas forcément ce qui se lance le plus sur Kickstarter. Donc j'avais, voilà.
On en parle régulièrement des Kickstarter. Enfin, on dit que Kickstarter, c'est le terme générique, mais c'est vrai que sur Ulule, on a reçu un projet il y a pas longtemps qui est sur Ulule, KissKissBankBank, etc. C'est très compliqué. Enfin, c'est très simple de lancer un projet. Il suffit d'aller sur la page. Je suis sur la page Kickstarter, là, sur le projet. Il y a un bouton vert qui ne clignote pas, mais je soutiens ce projet. Mais il y a aussi un bouton un peu plus haut. Je crée mon propre projet. C'est très facile de créer son projet. On met un titre, on met un goal, etc. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, de se lancer. C'est pour ça qu'on en parle aussi.
Dans c'est facile d'essayer, c'est difficile de réussir.
De faire les bons choix. Ouais.
C'est ça. Je me lance dans une première question. Pourquoi Kickstarter au lieu de Ulule? Puisqu'on a deux types de plateformes participatives. Ulule qui sera plus ou moins la plateforme française. Kickstarter, est-ce que c'est juste pour toucher plus de public?
Alors non, c'est une bonne question. En fait, à l'origine, le jeu devait être lancé en anglais et en français. Du coup, le choix pour une campagne bien internationale, c'était Kickstarter. C'était le choix évident. J'ai commencé la campagne et je me suis dit non, c'était vraiment trop prématuré justement pour lancer une campagne internationale. J'aimerais que les gens puissent jouer au jeu à Noël. Et donc j'ai continué en français, j'ai choisi Kickstarter parce que c'était ce que je connaissais. Je me suis dit peut-être que les gens aussi c'est ce qu'ils connaissent, je me suis un petit peu projeté sur les autres, c'était pas forcément une bonne idée. Mais voilà, ça a été un choix, à un moment il faut faire des choix en fait. Le plus mauvais choix c'est de ne pas en faire tout simplement.
C'est beau hein.
Ça c'était beau ça, j'avoue.
Alors, tu n'échapperas pas à la question qu'on pose à tous nos invités qui participent à l'émission d'Heureusement en France. Quel est un peu ton parcours? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment Quel est ton parcours de novice qu'est-ce dans qui l'univers fait qu'un
matin,
ludique?
Comme je disais pour plaisanter, qu'est-ce qui fait qu'un matin tu t'es réveillé à moitié bourré et dis tiens, je vais lancer un jeu sur les chats?
Alors, je vais commencer un petit peu par mon parcours, mais au final, j'ai toujours aimé créer des jeux. J'avais pas beaucoup, on va dire, de jouets différents. Enfin, quand j'étais chez mes grands-parents le mercredi, en fait, j'allais tout le mercredi chez mes grands-parents, il n'y avait pas beaucoup de jouets disponibles sur place. Et donc, je créais des jeux, j'avais des feuilles, des stylos, et je m'amusais à faire des jeux avec ça. Donc, je m'amusais, il n'y avait pas de soucis, c'était chouette. Donc, ça a continué comme ça. Je jouais souvent aussi en famille, forcément. Bon, c'était Monopoly et puis Milborn à l'époque, hein, forcément. C'était pas ce qu'il y avait de plus foufou, mais on le savait pas, on était gamins. Donc, on trouvait ça chouette. Hein.
Petit détail très important, est-ce que tu avais des frères et sœurs?
J'ai une sœur. J'ai une petite sœur, et justement, voilà, on pouvait jouer à des jeux de société avec elle. Donc, c'était tout aussi chouette, et je pouvais lui apprendre à jouer à des jeux de société. Je pouvais aussi faire des jeux avec elle. J'ai inventé plein de jeux avec elle, notamment la guerre de chaussettes. Très 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 bon jeu, vous mettez chacun à côté du lit, vous prenez toutes les chaussettes des parents et vous les balancez sur la gueule pendant 10 minutes.
Bientôt sur Kickstarter.
Et je le recommande à tous les petits frères et toutes les petites sœurs.
Ça
marche vraiment bien, la guerre de chaussettes. Je conseille.
On va s'incruster chez des personnes qui ont des enfants après l'émission et on va essayer.
D'ailleurs, je salue ma sœur, si tu m'écoutes, je lui fais des bisous.
C'est celui qui sent le plus à la fin qui a perdu.
Non, c'est des chaussettes propres. Ça va, on était des enfants sages.
Ouais, il y a eu un doute quand même.
Il y a eu un doute, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Voilà. Non, j'avoue, si jamais ils ont manqué de chaussettes, on allait en chercher dans le linge sale. Mais ça... Donc voilà, ça a commencé un petit peu comme ça, de créer des jeux un petit peu partout, tout le temps. Et donc, par la suite, il se trouvait que oui, j'avais aussi peut-être créé des petits jeux de société, mais c'était des jeux enfants, c'est-à-dire que je recopiais bêtement ce que je voyais, puis je m'amusais simplement à refaire des petits dessins, c'était plus ou moins rigolo. Ensuite, dans mon parcours, j'ai été développeur de jeux vidéo. Voilà, donc ça arrivait comme ça. J'ai commencé à créer des jeux vidéo assez jeune. Et j'ai eu la chance de pouvoir exercer cette passion dans le milieu professionnel, donc notamment chez Ankama. Et donc, pour en revenir à Jurassic 4, il se trouve que les meilleurs concepts de jeux, que ce soit jeux vidéo ou jeux de plateau, ou même les meilleures idées lors d'un jeu, de scénario ou autre, c'est souvent durant les pauses. Et là, durant une pause... Il se trouvait qu'on plaisantait sur une nouvelle chose. Il y a eu un délire qui s'est fait entre des dinosaures et des chats. Donc vraiment, le délire est arrivé comme ça. On s'y attendait absolument pas. On trouvait ça super drôle. On pensait à l'origine en faire, c'était juste une idée comme ça, mais en faire un beat'em all, donc vraiment un petit jeu d'action, etc. Donc jeu vidéo, hein, forcément, tous développeurs de jeux vidéo, c'est la première idée qui nous vient. Et voilà, il y a un des graphistes qui commence à dessiner un chat avec deux flingues sur un dinosaure en train de tirer partout, etc. Donc vraiment le bon gros délire. Je crois qu'il y a un autre collègue, et puis pote aussi maintenant, qui a sorti le terme Jurassic 4, c'est comme ça, donc le terme est sorti. Donc c'est resté, c'était dans un coin de ma tête, c'était rigolo, mais bon, rien n'a
été fait. C'était il y a combien d'années ça?
c'était sur Sledge, donc en 2011.
Ah oui, ça date.
Oui, voilà. C'était... Ah oui, vraiment, il y a eu du temps, il y a vraiment du temps entre l'idée... Il faut de la maturation pour ça.
Et qu'est-ce qui t'a fait passer le cap?
Alors, qu'est-ce qui m'a fait passer le cap? En fait, donc je vais revenir au jeu de société, mais cette fois-ci plus à l'âge adulte. Donc là, à l'âge adulte, j'ai plus découvert des jeux de société un peu comme Carcassonne, on va dire la nouvelle vague de jeux de société.
C'est ça, parce qu'il y a les jeux qu'on connaît tous, Monopoly, Midborn, et il y a forcément le jeu qui va t'initier dans cet univers adulte du jeu de société. Alors pour toi, c'est Carcassonne?
Moi, c'était Carcassonne, et ça l'a été toujours. Enfin, je trouve que ce jeu, c'est une perfection... C'est une perfection ludique, c'est-à-dire que
alors,
tout est carré.
Alors, une perfection à la première version ou au bout de la 16e extension?
Non, sans extension, ouais. Je trouve le jeu de base déjà
parfait. Deux extensions. Mine de rien, j'étais... parce que ce week-end, c'est le Spiel Digital, on l'avait annoncé. Et il y avait justement un débat, il y a pas mal de gens qui font des émissions, et une question qui revient souvent, qu'on pose aux invités dans ce genre d'émission, c'est quel est le jeu qui vous avait basculé? Il y a effectivement Carcassonne. Souvent, c'est les colons de Catane qui revient. Très souvent, il y a qui a marqué GreekOla, etc.
HeroQuest.
Voilà. Non, mais pas HeroQuest, non.
Je me suis surpris.
HeroQuest, hein.
Je pense qu'il était 2h du ce matin et je regardais sur un site de vidéo que je vais ne pas citer. Je regardais une finale de championnat de Carcassonne dans un festival allemand, etc., entre deux Américains, etc. Enfin, et j'étais captivé parce que c'est un de mes jeux préférés aussi. Un de nos jeux préférés, je pense, je peux dire. Et je m'en lasse pas. J'ai moi-même participé à des championnats. Effectivement, c'est un jeu qui marque, quoi.
C'est ça, qui permet de créer ton petit univers, qui a l'air accessible à tout le monde. C'est ça qui est génial. Parce qu'il y a des jeux où, au premier tour, tout le monde va se confronter à une difficulté, alors que Carcassonne, tu comptes les points à la fin. Donc pendant toute la partie, tout le monde s'amuse sans savoir vraiment s'il va gagner. Et c'est ça qui est génial, quand même, dans le concept.
Et puis surtout, ce qu'on oublie, c'est que Carcassonne, il est interactif. C'est-à-dire qu'on joue contre les autres. Ouais. Vraiment, à chaque fois, on va essayer de s'immiscer un petit peu dans la partie de l'autre.
On a chacun sa stratégie, voilà. J'avoue. Voilà. Moi, je suis plus du genre, j'attends que les autres commencent à construire des villes et des champs, et dès que j'ai une place, je viens m'incruster pour essayer de piquer des points.
Voilà, ah ouais, c'est ça. Ah, m'étonne pas.
Ah oui.
Et voilà, c'est vraiment le jeu.
Je préfère marquer moins de points et empêcher les autres de marquer des points, quitte à perdre. Mais c'est pas grave.
Stratégie de l'échec.
Exactement.
Mais oui, voilà, c'est vraiment un jeu qui est interactif, qui permet justement à tout le monde de... Eh bien, d'interagir. Au final, on ne joue pas chacun seul dans son coin. Enfin, moi, personnellement, par exemple, il y a un jeu qui a un grand succès et où justement, je trouve qu'il y a ce problème-là qui n'est pas interactif. C'est par exemple Les Aventuriers du Rail. Je trouve que l'interaction, vraiment, se fait pas trop. On a l'impression de tous jouer chacun de notre côté. Et voilà, ça me parle un petit peu moins.
Tu peux bloquer un petit peu les autres joueurs au sens où le nombre de voies est limité. Donc, si tu construis une voie à un endroit avant les autres joueurs, ils ne pourront pas le faire.
Les Aventuriers du Rail est beaucoup plus calculatoire parce que tu dois regarder ce que les autres prennent comme carte et ils te disent « Ah, il vient de prendre deux cartes bleues, donc il peut aller sur les rails bleus et donc voir quel chemin il va te bloquer, etc. » Alors que Carcassonne, c'est un peu entre guillemets, sans le rabaisser, le hasard de la pioche. Tu vas prendre une tuile et avec cette tuile-là, tu vas dire « Qu'est-ce que je peux faire avec ?» En bien et en mal par rapport à mes adversaires, en bien pour moi.
Qu'est-ce que je peux jouer en empêchant les autres de marquer ?
Tu ne dois pas non plus avoir l'esprit calculatoire et devoir faire maths sup pour faire ton tour de jeu. Quoi.
Ça va plus vite, les parties. Enfin, le tour de jeu peut être plus rapide, tout simplement. Ouais.
Alors, sachant que tu es très lié au jeu vidéo, pourquoi avoir fait une version jeu de société plutôt qu'un petit jeu vidéo qu'on aurait pu trouver
une
sur mobile ?
Une appli mobile, par exemple.
Faite avec Unity ou autre ?
Alors, pourquoi ? Eh bien, il se trouve qu'en fait... Donc j'avais commencé avec Carcassonne, justement, comme je disais, les jeux pour adultes, si je peux caricaturer un petit peu. Mais à ce moment-là, je jouais très souvent aussi avec mes beaux-parents à un jeu justement de cartes qui s'appelle l'ascenseur ou le tarot africain. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oh, l'ascenseur, oui.
Donc voilà, donc c'est un jeu justement de plis où il faut prévoir en amont le nombre de plis que l'on va faire. Et je trouvais vraiment ce jeu génial. Enfin, je me disais, mais vraiment, ce jeu, il est magique, il fonctionne très bien. Sauf que c'est un jeu de bistrot. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas suivre à la... Enfin, on est obligé de suivre à la tout. Enfin, voilà, c'est vraiment pas familial, c'est pas fun, en fait. Le jeu est génial, il est très intéressant, mais il est pas, y a pas, ça manque de fun.
Sauf, comme dans un bistrot, où tu as quelques verres.
Oui, voilà. Il faut trouver la personne.
Et des cahuètes.
Les cahuètes.
Il ne faut pas oublier les cahuètes.
Les jeux sont fun.
Tu enlèves le bout de la bouche, là. Ouais.
Mais donc, voilà, je me suis dit, mais ce jeu est génial. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de monde qui joue à ce jeu, le rendre plus accessible. Et donc, j'ai commencé à travailler, à réfléchir, en me disant, mais qu'est-ce qui pourrait le rendre plus accessible ? Est-ce qu'on changerait ça ? Et là, l'idée de Jurassic... Je sais pas, Jurassic 4 m'est revenu. Et je me suis dit, mais il y a clairement moyen de mettre au niveau du thème... De remettre les deux et de regrouper. Et en travaillant justement le jeu, le thème s'intégrait encore plus. Et en travaillant le jeu s'intégrait encore plus. Ça faisait vraiment une symbiose. D'accord. Habituellement, c'est vrai que lorsqu'on va créer un jeu, il peut y avoir soit la recherche en fait du thème, soit la recherche des mécaniques. Le plus souvent, généralement, les auteurs de jeux vont créer des mécaniques et ensuite ils vont attacher un thème dessus. Donc là, c'est vrai que j'avais déjà des mécaniques. Et donc oui, au final, j'ai rattaché un thème dessus. Mais après, il y a des choses du thème qui ont aidé justement au développement des mécaniques. Et les deux se sont vraiment entrecroisés et tout est devenu cohérent en fait. C'était presque parfait.
En fait, c'est le principe de la création d'un jeu de société de A à Z quand quelqu'un va jusqu'au bout du principe de création. Généralement, tu as des créateurs, des auteurs, donc plus créateurs parce que le jeu ne va pas jusqu'au bout, qui prennent une mécanique, te mettent un thème dessus et te disent le jeu est terminé, je le lance. Ils ne font pas de playtest. Généralement, c'est quelques amis qui le testent. Ils passent même pas par un salon ou un festival. Et après, tu les retrouves sur Ulule ou Kickstarter. Ça fait généralement des bids assez rapidement.
Forcément.
Ouais. Mais si tu reconstruis ton jeu avec le thème, parce que le thème va t'apporter des mécaniques que tu n'avais pas pensé au début, ou des mécaniques vont être modifiées parce que tu as une fonction de dire ah bah le thème me permet de faire ça et historiquement le thème veut ça. Donc l'histoire du thème va te ramener une nouvelle mécanique ou peut-être une nouvelle façon de scorer à la fin, ou et va améliorer ton jeu.
C'est ça, ça raconte une histoire, ça rajoute une ambiance, ouais. Et ça permet justement de mieux penser justement les mécaniques.
Ce que tu cites, Reynald, parce que récemment j'étais au salon d'Amiens, et à chaque fois dans ce genre de salon, tu as toujours des gens qui viennent avec des prototypes,
ouais, tout à
des
fait.
Mais tu as aussi le stand qui est énorme, réservé par des gens qui ont fait leur jeu sur un thème. Alors, c'est qu'une ressucée du Monopoly, mais sur un thème, la bière, le vin, leur passion, je sais pas quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt, ça coûte cher, c'est moche, personne ne va y jouer.
Tu regardes sur Ulule, tu as toujours 3 ou 4 annonces d'un jeu qui est en fait un jeu de questions, un jeu de quiz,
Soit
qui est thématique, voilà. Mais qui est juste thématique. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un jeu qui était sur la Normandie ou l'autre. Je dis, non.
C'est bien. Peut-être même que c'est peut-être soutenu par le conseil régional de la Normandie, voilà. Qui leur donne peut-être une petite subvention pour développer leur jeu.
Mais c'est un énième jeu de quiz ou de questions ou de... Enfin, non.
Après, je comprends du point de vue justement du consommateur. Bon, c'est compliqué d'avoir tout le temps ces choses-là, justement, ces énièmes questionnaires et tout. Maintenant, c'est bien que des gens essayent de créer, parce que c'est vrai que c'est déjà très compliqué.
C'est vrai, mais ils vont passer du temps, parce que effectivement, les gens que tu vois, ils vont passer tout leur week-end sur ces salons. Au début, il y a peut-être des gens qui vont être intéressés, mais ils vont peut-être vendre une ou deux boîtes sur le week-end, c'est tout. Et il faut leur dire tout de suite, il y a des salons pour ce genre de jeu. Allez vous renseigner, etc. Espérer en vivre.
Ah non, déjà, ne serait-ce que de passer par les bars à jeux aussi, mais surtout les clubs et les assos de jeux. Parce que les personnes qui vont venir, ils vont être gentils avec toi, ils vont tester ton jeu, ils vont dire « Ah ouais, super !» Mais ils ne voudront pas y rejouer. Et au bout de 2 semaines où tu vas venir, qu'il n'y aura plus personne qui voudra jouer à ton jeu et faire un autre proto ou faire un autre jeu quelconque, la personne va sentir qu'il manque un potentiel à son jeu.
C'est un manque d'expérience des gens par rapport à ça, par rapport à la création. C'est vrai que moi, j'ai cette chance-là, c'est d'être développeur de jeux vidéo. Et j'ai pu voir justement comment est-ce qu'on faisait playtester des jeux, comment on se rendait compte si vraiment l'autre était vraiment intéressé par le jeu. C'est-à-dire que s'il nous rend la manette à la fin et qu'il s'en va, même s'il nous a dit oui, c'est bien, il est parti, on a compris.
Dans le jeu de société, dans le jeu de plateau, comme dans le jeu de le vidéo, c'est les premières minutes. C'est super. Ça devient de plus en plus important. Les premières minutes, il faut que tu sois accroché. Le nombre de jeux où je l'explique de temps en temps, je passe plus de temps à télécharger le jeu qu'à y jouer, je me dis, ça sent pas bon.
Il y en a beaucoup depuis le temps qu'on en parle.
Il y a même des jeux où je télécharge le jeu, la démo du jeu, je l'installe, je le lance. Et avant même d'arriver au menu, je coupe le jeu, je désinstalle, tout simplement un truc tout con, mais j'arrive pas. Le son est trop fort, par exemple. C'est des détails techniques, mais pour un jeu vidéo, c'est important. Mais si je peux pas, dès la démo, la démo d'intro, la musique, baisser la musique du jeu parce que la musique m'arrache.
Ce que je vous propose, rentrons dans le sujet. Ouais. Je vais vous lancer quelques secondes de musique et vous allez me dire si ça vous plaît ou non.
Non. Mais c'est une expérience musicale à laquelle tu nous convies, là.
Est-ce que ça vous tente ?
Il y avait des dauphins en fond sonore.
Aurélien ?
Complètement, vas-y.
Complètement.
Fabien ? Moi, franchement, ça me tente.
Très bien. Alors, on va se réécouter.
Ah ouais, parce que moi, je pue de la gueule. Moi, j'ai pas le droit de dire oui ou non, quoi. Non, mais t'es sympa, quoi.
Tu n'es pas invité, enfin... Alors, pourquoi avez-vous voté dans ces premières secondes ?
Il y a un décalage là quand
même. Le piège. Alors à la base, on devait écouter Danny Briand qui reprenait Charles Aznavour.
Voilà.
Donc sachez que si vous écoutez Heureusement en France régulièrement, on l'écoutera prochainement un dimanche de 18h à 19h.
Il va pas nous échapper.
Mais ce qui s'est passé il y a 2 jours, c'est que Plastic Bertrand a enfin annoncé la sortie de son nouvel album.
L'expérience humaine. Je crois que jamais un album n'a aussi bien porté son titre.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu achètes un autotune, mais que tu ne sais pas t'en servir ?
On n'avait pas déjà parlé avec Squeezie ?
Ah, tu crois que c'est Squeezie qui leur filait son vieil autotune tout cassé ?
Maintenant qu'il a racheté l'application qui fait tout pour lui.
Sur le bon coin.
En vrai, s'il ne chantait pas, ça serait chouette.
Il y a un message.
Très bonne réflexion.
Est-ce qu'il chante ? Ou est-ce qu'il parle, là ?
Est-ce que ça fait peur un peu du Daft Punk de Babou ?
Ouais, je dirais plutôt action.
Action, Babou, Jiffy, voilà, on les a tous fait.
C'est fait. On est loin là quand même quoi. Non, le début est pas mal, il y a un petit côté new wave, tu sens qu'il y a du potentiel côté aventure, puis d'un seul coup, bim, l'autotune il arrive, tu casses tout.
On en a plusieurs.
On a un album complet.
Alors sachant qu'on s'est un peu démené pour ramener un vinyle d'Heureusement en France qu'on a cherché pendant des mois et des mois, qu'on a passé en début d'émission.
Exactement.
Et on fait un sacrifice sur la place de Radio Campus avec du Plastique Bertrand. Alors, pourquoi Plastique Bertrand? Parce que c'est Noël et qu'il va falloir vendre les CD, je pense.
Mais tu sais que son album est sorti en vinyle également.
Alors, est-ce que ça te tente?
La pochette est magnifique.
On l'a reçue en CD, voilà.
La pochette est magnifique, j'avoue. Voilà, c'est tout, mais il faut le laisser dans l'emballage.
Il y a tout claqué en illustration. Non, il n'y a plus rien pour la musique.
Je vais aller regarder la pochette, hein, du coup. Ça me donne envie de voir.
Alors, la pochette est magnifique.
C'est un superbe objet, une expérience humaine.
Est-ce que vous en voulez une autre? J'ai
peut-être
petit...
pas tout de suite.
Là, tu nous as calmés.
Peut-être pas tout de suite.
Ah, là là. Ah si, celle qui bouge le plus de l'album alors.
Bah, c'était celle-là. Donc,
bon bah non alors.
Il y a la même en version anglaise, mais bon, c'est pareil. Sauf qu'il chante en anglais.
Alors, je vous propose de faire un petit point agenda. On a parlé du Z-Event.
Exactement,
la semaine dernière.
On parle d'expérience humaine. Le Z-Event, on l'a suivi. On l'a même suivi en direct dans notre émission la semaine dernière.
Ouais.
C'est vraiment ce qu'on appelait une expérience humaine.
Ah oui, ça y est, oui.
Tu veux du plastique Bertrand.
Tu peux le mettre en fond si tu veux.
D'accord.
Le Z-Event, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un événement caritatif. Alors ça s'appelle Z-Event parce que l'organisateur principal s'appelle Zerator, c'est son pseudo. Tous les ans, depuis 6 ans, il réunit des streamers, des youtubeurs, principalement jeux vidéo, professionnels. Le plus connu, on l'a cité, Squeezie, il y a le joueur du grenier qui était là, Gotaga, j'essaye de me rappeler des noms parce que je ne les suis pas, donc je ne les connais pas, ces gens-là.
On a eu même droit à un mariage.
Il y a eu plein d'événements pendant... Alors ça a commencé le vendredi à 18h, ça s'est terminé le dimanche à, non pas minuit, mais 1h du matin.
Voilà. À 11h du soir, ils ont rajouté une petite heure supplémentaire.
Voilà, pour que ça dure un petit peu. Et il y a eu plein d'événements, ils ont fait des concours. Il y a même eu Samuel Etienne qui est venu animer en direct question pour un streamer. Et ça a super marché. Et donc, pendant cet événement, donc, les streamers jeux vidéo font venir leur communauté, leur lance des challenges, leur demande de faire des dons. Cette année, c'était pour le Amnesty International. L'année dernière, c'était l'Institut Pasteur. Ils avaient battu le record pour un événement français mais mondial, pour un événement virtuel comme ça. Ils avaient réuni 3,5 millions d'euros.
Et on s'était dit la semaine dernière, le but c'est pas de taper les 3 millions, même tout le monde disait on battra pas le record.
Déjà en 2018, ils avaient fait 1 million d'euros pour Médecins Sans Frontières et c'était énorme. Et comme disait Dom, l'année d'avant, de maintenant, ils avaient fait pour l'Institut Pasteur 3,5 millions et on avait trouvé ça encore plus énorme que ça. Voilà, on pourrait jamais faire mieux.
Et donc, cette année, tout le monde disait, même Zerator, les organisateurs disaient, on fera pas mieux, on battra pas le record, mais c'est pas le but. Donc, en fin d'émission, on s'est quitté, j'ai fait un petit bilan, on était à 2,5 millions d'euros,
quelque
ce qui
chose,
était pas mal, ce qui était énorme. Je suis rentré chez moi, genre une ou deux heures plus tard, on était à plus de 4,5 millions. Le record était explosé et il restait encore quelques heures. Mm-hmm. Et c'était les heures les plus cruciales où là, il y a encore. En gros, le don, ils ont fini à 5,7 millions d'euros à peu près, à 1h du matin. C'était affolant. Enfin, il se passait encore des trucs de fou, quoi. Il y a eu des challenges jusqu'au bout. Ça hurlait.
Vers la fin, ils font des petits raids. Généralement, tu as plusieurs de streamers qui se disent, ils se regroupent à une quinzaine sur un Discord et disent à leur communauté voilà, il y a un donation goal chez telle personne qui est dans 10 000 euros. Pour X raison, toute la communauté de tous les streamers qui sont dans le sujet de discussion, allez-y et ne donnez qu'un euro, ça suffit.
Donner
un euro. Mais comme on est 1500 par, viewers par streamer, les 10 000, on les a atteints, mais très facilement.
C'est ce qui se passe.
Et après, ils changent. Ils disent, voilà, celui-là, maintenant, c'est son donation goal, il est dans 15 000. On le refait. Et ils ont fait
ils passaient uns aux autres, ils s'envoyaient des challenges, ils bougeaient la communauté jusqu'à 1h du matin, ça n'arrêtait pas. Et donc, ça boostait tout le monde. Il y avait 41 streamers, il devait y en avoir 50, mais avec le Covid, etc. Tout le monde n'était pas sur place. Et donc, il y en avait. Enfin, c'était affolant. Il y avait un des streamers les plus. Momon, je crois que c'est Badbeat.
Ouais, Momon. Ouais.
Quelqu'un qui avait. Un barbu qui s'est pas rasé la barbe pendant 10 ans. Il dit allez, si j'arrive à genre 250 000, je sais plus, 150 000 euros, ouais. Mais je me rase la barbe. Genre, il est sûr de pas arriver. Tout le monde s'est regardé, s'est dit. Tout le monde s'est ramené sur son challenge, allez, donnez à main. Mm-hmm. Alors, je crois qu'en 3 minutes, sa barbe a disparu, quoi. Et il l'a rasé en direct.
Il l'a rasé en direct.
Ça fait partie du fun, quoi.
C'était un joueur de StarCraft 2, au moment.
C'est très possible. Ouais, c'est ça.
Oui, et puis, il est très connu, ça fait longtemps qu'il est implanté. Ouais.
Enfin, il y avait plein de challenges très sympas. Mais c'est... Et donc, ça a cartonné. Et donc, tout le monde les attend l'année prochaine, quoi. Voire encore plus, mais ça va être difficile maintenant de faire.
Est-ce qu'il n'y aura pas une pression quant à l'organisation qu'ils vont choisir pour soutenir
J'avoue, déjà, le choix cette année était un petit peu controversé parce que Amnesty International est une organisation non gouvernementale, mais politique ou politisée. Et on leur a beaucoup reproché d'avoir soutenu, par exemple, d'avoir défendu des djihadistes en Belgique, qui étaient les droits de certains djihadistes. Donc, c'était assez controversé. Donc, le choix n'est pas évident. Mais c'est effectivement l'année prochaine, est-ce qu'ils vont peut-être choisir plusieurs organisations pour partager la collecte. Enfin, je sais pas, c'est pas évident.
Après, tu pourras très bien voir que s'il se passe quelque chose de bon dans les assos, ou par exemple peut-être un vaccin ou on ne sait quoi pour le Covid, peut-être que le ZD20 se mettra là-dessus et disant tout ce qu'on récolte, ce sera pour ça, et aider justement la fabrication du vaccin.
Ils étaient déjà contents cette année d'avoir pu organiser à cause du Covid, etc., et de la pression qu'on leur avait mis. C'est vraiment un événement à suivre et qui a toute la presse en a parlé. Même le président Macron s'est fendu d'un tweet alors qu'il disait non, on n'aura pas de tweet parce que justement c'est Amnesty, c'est un petit peu politique, etc. Mais il a lâché son tweet aussi pour les féliciter. Surtout qu'effectivement c'est des jeunes, c'est du jeu vidéo de bagarre, des gens pas très fut en général. C'est l'image qu'on leur donne.
C'est du jeu vidéo de masse.
C'est ça. Et pour une fois, les joueurs de jeux vidéo ont réuni plus d'argent que certaines causes.
Voilà, c'est un peu, on va dire, boomer pour être dans le langage jeune.
Pour
quoi.
Comparer sur un Téléthon, on est à combien à peu près?
Ah, le Téléthon, on est beaucoup plus, mais c'est vraiment pas le même public, oui.
Non, mais c'est histoire de comparer, simplement.
Bah, déjà, pour te dire que ne serait-ce que la deuxième édition du Z-Event, ils avaient fait pour la Croix-Rouge 500 000 euros. Si tu veux comparer avec le Téléthon, tu peux te prendre des chiffres, tu sais que... Et comme on disait la semaine dernière, ou à chaque fois qu'on parle du Z-Event, quand tu fais un don, tu le fais. C'est pas une promesse de don.
D'accord.
C'est tu vas sur ton PayPal et tu fais ton don et tu reviens. Tu vois, voilà. Donc c'est
pas la même.
T'es vraiment engagé, quoi.
Et il y a une interactivité qui est encore plus présente, ouais. J'ai envie de dire, dans ce système du Z-Event, qui risque d'être exploité. Alors c'est parce que les chaînes de télé ont un peu du mal à se mettre dans cet univers en ligne.
Peut-être que ça va faire bouger les lignes à ce moment-là, oui.
C'est ça. Ils ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Hein. Non mais c'est vrai. Tu vois la chaîne stream qui est le stream, justement. Ou le live, je crois que c'est le live. Ils ont fait quoi, un mois? Ils ont tenu un mois.
Oui, ils ont voulu lancer une nouvelle chaîne de télé, parce que maintenant le stream YouTube c'est la nouvelle télévision, ce qui est pas impossible.
France tout de comme, Twitch, c'est
tout
ça.
Tout comme le podcast et la nouvelle radio. Bon, on verra bien. Mmh. Pour l'instant, Radio Campus est là depuis 50 ans, on va voir. Ils ont voulu lancer une nouvelle chaîne en disant on va ramener tous les YouTubeurs les plus connus, les plus à la mode, etc. Mmh. Ça n'a pas marché parce qu'ils ont eu des problèmes techniques, etc. Ça s'est planté.
Ils ont mis énormément de codes télévisuels dans le stream, alors que le streaming a ses propres codes, un peu comme un YouTuber va essayer de se lancer sur le stream, sur Twitch, il va se rendre compte que c'est pas du tout le même métier. Et alors que eux, ils sont ramenés, ils ont dit on va ramener des mecs sur la télé qui sont des stars, on va ramener des mecs de YouTube qui sont des stars, et hop, allez-y, faites-nous du 24/24.
On va les mettre devant des webcams et ils vont faire leur numéro, puis voilà. Ça marche pas.
Ouais. Non, ça va pas changer la manière de. Enfin, si, justement, la manière de consommer a complètement changé. Une personne qui regarde déjà son streamer sur un stream va pas se faire chier à le regarder sur la télé. Parce qu'il a déjà son habitude de consommation.
Alors, c'est surtout qu'il y a une interaction. Alors, pour regarder les tweets de mon côté, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est pouvoir communiquer avec la personne. Et qui est en train de twitcher. Alors, c'est difficile lorsque la personne a des milliers de viewers.
C'était le cas pendant le Z-Event. C'est-à-dire que j'étais sur le stream de Zerator, par exemple, on était 400 000, tu peux taper ton message. Tu as la colonne de droite où tous les messages qui s'affilent, ça défilait à toute vitesse.
T'es content de le voir passer.
T'es content, toi, de voir passer ton message. Et tu vois rien. Enfin,
alors que, limite, on prend l'émission du matin, le dimanche matin, le Twitch Café, tu peux communiquer avec la personne, il te répond, vous êtes en direct.
Pendant l'émission, c'était sur Radio Campus.
Et se crée une affinité qui te rend un peu addict à ce Twitch. Alors forcément, lorsque c'est des joueurs du grenier, des Squeezie ou autres, là, tu participes au flux qui est constant.
T'es tout content quand t'as posé ta question et qu'il t'a cité à l'antenne. Ta journée.
C'est là que tu vois la différence entre quand tu vois des gros streamers ou des gros youtubeurs qui font, comme on dit, du flux, tu regardes une animation ou tu regardes un programme.
C'est ça.
Par contre, quand tu regardes un petit streamer, tu participes au programme et tu animes un peu avec lui le moment. En fait, tu participes.
C'est des métiers qui sont vraiment en train de se réinventer en permanence, quoi.
Je pense. C'est l'avenir, mais il faut des gens qui regardent et qui s'abonnent.
Si
tout le monde participe, ça devient
gênant. C'est un peu comme t'es pas obligé de regarder parce que t'as un bruit de fond, t'es un streamer. S'il fait un jeu vidéo, oui, tu vas le regarder. Mais si c'est un streamer qui parle ou qui fait, tu fais autre chose. Tu le mets en tâche de fond et tu écoutes, c'est comme une sorte de podcast. Tu n'es pas obligé d'être regardé sur l'écran, voir la tête de ton streamer en disant il parle bien.
Quand je dis que c'est en train de s'inventer, c'est que c'est en train d'évoluer parce que au début, tu avais Twitch, YouTube, etc. Puis tu as Facebook. Y a tellement de nouvelles plateformes. Mais Amazon va relancer aussi son système de streaming, si ce n'est pas déjà fait, et de gaming. Et tu as maintenant les plateformes de jeux virtuels, comme on appelle ça, de cloud gaming. Que ce soit Stadia, Amazon Gaming, etc., où tu pourras jouer à des jeux depuis ton ordinateur de façon dématérialisée et te streamer en même temps. Donc tu vas te streamer en train de jouer pendant que tu regardes un autre jeu en train de streamer. Enfin, tout le monde va devenir son streamer en même temps. C'est vraiment un métier qui est en train d'exploser. Je sais pas ce que ça va donner.
Et ceux qui étaient là à la première vague sont bien contents, hein, mine de rien. Alors, je vous propose, puisqu'on va reparler en détail de cette fois-ci du jeu, puisqu'on a parlé de l'auteur, hein, Aurélien, mais il y a le jeu Jurassic Cats.
Ça te fait de mal de prononcer ce mot. Hein.
Sans commentaire.
Non, mais entre Jurassic Cats, moi je suis pour les dinosaures.
Moi aussi, mais il m'a convaincu puisqu'il y avait certaines cartes. On parlera du design du jeu tout à l'heure.
Et puis, est-ce qu'il y aura une extension ? On pourra jouer les dinosaures pour se venger contre les chats et tout. Ça peut être sympa. On va te donner plein d'idées.
Une petite team chien, là, quoi.
Alors, tout à l'heure, j'ai passé de la musique en fond. C'était la dernière piste de Plastic Bertrand dans cette expérience humaine de 2020. On est en pleine danse, c'est sorti il y a deux jours. Et là, c'est Mister Do It.
Changer. Un rêve éveillé, c'est tout ce que j'ai. Il est
là. Alors, si vous ne savez pas faire marcher votre vocodeur, ne demandez pas à Plastic Bertrand parce qu'il ne sait pas non plus.
Regardez-le, parler, marcher.
Actuellement, j'adore. Hein. Un
pied devant l'autre. En fait, il est resté dans les années 70 au niveau chant.
Il va nous faire trois émissions cet album.
Ouais, quand même. Ouais.
Et vous croyez que je sais où aller? Un seul homme sur la terre, Mr. Do It, je suis juste.
Ça donne des envies
de. Il y a un petit côté Mr. T.
Oui, c'est exactement ça. Ça donne des envies de refaire un nouveau générique, tu vois.
Rien de plus que vous.
J'ai des tas d'idées de concepts d'émissions pour Radio Campus qui me viennent en tête en écoutant ces morceaux.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'expérience humaine. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer l'émission.
La bonne direction. J'en sais rien.
Aurélien qui est en train de chercher des idées de jeu.
Non, mais c'est génial, c'est qu'en fait on s'identifie à lui, parce qu'en fait là on dirait Monsieur Lambda. C'est Monsieur Lambda qui essaye de lancer justement sa propre musique avec ses propres MIDI derrière qui tournent.
C'est ça, parce que
là,
c'est
vrai, il a pas fait écouter à ses voisins, tu vois.
Il a installé Ableton pendant le confinement, il a chopé un petit
micro. De voisin.
Il a pas de voisin, voilà.
C'est ça le problème.
Il y avait une petite piste MIDI sur le clavier. Mr. Do It. Ah, je connais paroles par cœur, c'est bon. Je vous promets qu'on va le réécouter cet album. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de Jurassic Cats ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu qui est actuellement en Kickstarter ? D'ailleurs, on vous invite, hein, si vous aimez les jeux de société et qui sont accessibles. Alors là, pour le coup, on a une tranche d'âge qui est assez large.
Alors, c'est accessible à partir de, je vais dire, 8 ans. Peut-être 7 ans si l'enfant est vraiment joueur, si l'habitude des jeux de société, ça peut fonctionner. Mais en fait, il y a beaucoup d'anticipation quand même dans ce jeu. Il y a beaucoup de stratégie. Enfin, il y a beaucoup de stratégie. Il y a de la stratégie.
Il faut réfléchir.
Il faut réfléchir, même si ça se passe pas bien et qu'on essaie de réfléchir et que.
Mais pas trop.
Ce à quoi, voilà, il faut réfléchir.
J'aime bien ces jeux-là. Il faut réfléchir, mais pas trop.
C'est exactement le slogan du jeu. C'est un mélange en fait entre la stratégie et le chaos. C'est-à-dire qu'on va penser une stratégie et on va tout faire pour, déployer tout le chaos sur la stratégie des autres. N'est-ce pas, François?
Ça marchait bien.
Le petit tacle qu'il m'a fait tout alors, à l'heure.
C'est ça. Alors, est-ce qu'on arrive à détailler un peu le principe ou la mécanique
La mécanique du jeu, donc vraiment, ça ressemble énormément, comme je le disais, au tarot africain, à l'ascenseur, parce que c'était mon inspiration, tout simplement. Donc, il s'agit de regarder ces cartes, de se dire, tiens, à partir de mes cartes, combien de plis est-ce que je pense pouvoir réussir ?
Combien de dinosaures je pense capturer ?
Voilà, combien de dinosaures est-ce que je pense capturer ? Lesquels ? C'est bon, ils sont identifiés. Donc, je vais prendre des steaks pour nourrir ces dinosaures. Et à la fin, si j'ai la bonne adéquation entre le bon nombre de dinosaures et le bon nombre de steaks, c'est bon, ils sont nourris, je les gagne.
C'est
par
ça.
Contre,
c'est un petit peu contre-intuitif. Tu dis, je vais capturer un maximum de dinosaures, comme dans beaucoup de jeux.
Ah non, surtout pas. Il faut vraiment capturer uniquement ce que l'on pense capturer, car en plus, si l'on réussit son pari, on gagne un bonus. C'est-à-dire que si on pense ne rien capturer, on ne prend pas de steak. Et à la fin, si on n'a pas capturé dinosaure et que l'on n'a pas de steak, on gagne un dinosaure bonus. En fait, ça permet évidemment de casser la non-chance. Si jamais vous n'avez pas de chance lors des pioches, vous n'avez pas les bonnes cartes, dans ce cas-là, ça vous permet toujours de gagner des points.
Donc on peut très bien remporter le jeu sans gagner aucune plie.
Alors, j'ai essayé justement, je me suis dit, c'est peut-être bien, parce que c'est tout de même toujours un peu plus facile de ne pas remporter des cartes que de les remporter. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire plein de parties en ne remportant rien du tout. Et malheureusement, il y a des joueurs qui remportent toujours plus de points, donc ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas gagner comme ça. Il faut prendre des risques.
Et de toute façon, comme tu l'as bien précisé, c'est un jeu qui fournit du chaos où tes adversaires vont essayer de te pourrir tout en réussissant à essayer de réussir leur pli. Quand ils vont voir que de toute façon tu réussis à ne pas faire tes plis, ils vont t'en donner un. Ils vont te donner un pli, mais te donner un dinosaure et tu dis, j'ai quand même un pli, donc c'est mort.
C'est ça, et puis c'est du jeu chaotique et c'est du jeu où justement on est toujours en interaction avec les autres. Donc en fait, il faut aussi réussir à amener du chaos, mais sans que la personne s'en rende trop compte, qu'on la prenne pour cible, parce que sinon après elle nous prend pour cible. Donc c'est un peu compliqué, il faut réussir à faire ses petits coups en douce.
Et j'ai l'impression, alors nous on a joué un petit peu avant, donc on n'avait pas joué avant, donc, mais c'est un jeu à progression. Mais toi, tu as beaucoup de parties de Shulgun.
Énormément.
Ça se sentait un petit peu, parce que la première partie, on découvrait les cartes, et quand on connaît les cartes, on sait ce qui peut arriver, donc on joue pas de la même façon.
Ah oui, non, le jeu devient vraiment très stratégique. Alors, évidemment, si l'on est meilleur que les autres joueurs, on va gagner vraiment plus souvent. C'est-à-dire que là, on va avoir 8 chances sur 10 de gagner. Maintenant, si on joue entre amis qui ont l'habitude de jouer très fréquemment, dans ce cas-là, c'est le chaos qui l'emporte et c'est un petit peu le déroulé de la partie qui fait que le jeu est amusant.
C'est surtout parce qu'il y a des cartes qui interagissent avec le jeu de l'adversaire. Donc la personne a choisi un certain nombre de steaks pour nourrir les dinosaures qu'il va le prendre, mais on va lui voler des steaks, on va lui en rajouter. Et là, ça va commencer à ce que tu dis, créer le chaos qui fait que la partie prend forme. Il y a vraiment une interaction entre joueurs. De confrontation ou même peut-être d'alliance des fois à se dire tu m'attaques pas,
change pas mon nombre de steaks. C'est plutôt l'inverse souvent, c'est plus l'inverse d'une alliance qui se produit, c'est tout le monde se met sur une personne. J'ai souvent eu des cas vraiment en salon j'ai dû le faire tester presque un millier de personnes et à chaque fois c'était sur une personne, quelqu'un avait une carte pour lui en prendre une. Et donc, juste après, une autre personne avait une carte pour en prendre une et il se dit, je vais prendre sur le même. Forcément, on lui a mis dessus. Allez, je fonce et je vais dessus. Et donc, c'est ce qui marche. C'est vraiment s'allier, entre guillemets, sur une personne pour lui pourrir sa partie. Et c'est au final, je me suis rendu compte qu'à la fin d'une partie, les joueurs ne se souvenaient pas forcément de qui avait gagné. Ils se souvenaient plutôt de est-ce qu'ils avaient réussi à faire leur petit coup fourré ou pas. Et ils avaient le petit sourire, le petit rictus en se disant, c'est bon, j'ai réussi mon petit coup. La joie que François n'a pas gagné tout à l'heure. Et pourtant, il a ce rictus depuis tout à l'heure. Ça fait une heure qu'il est heureux. Parce qu'il m'a fait son petit coup qui m'a empêché justement de remporter mes dinosaures.
On n'a pas gagné tous les deux, j'étais ravi.
Après, tu parles de chaos, mais il faut bien penser à ce que pour les joueurs qui nous écoutent, ça peut être rebutant de dire il y a du chaos, si je ne peux pas faire ma petite planification, ou si je la fais et qu'elle se fait défoncer par quelqu'un d'autre, c'est mort, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut bien préciser que tu as très peu de cartes qui te ramènent vraiment du chaos. Mais après, c'est un chaos qui peut être prévisible. Tu vois.
Alors, c'est un chaos qui peut se maîtriser.
Voilà,
et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un joueur d'échecs. C'est-à-dire, j'en ai fait en club pas mal de temps, donc j'aime bien tout maîtriser, que tout soit carré. Et là, le problème des échecs, c'est que vous ne pouvez pas jouer avec n'importe qui, en fait, parce que sinon, vous...
Là, t'as vraiment
un seul niveau. Vous pouvez, mais vous gagnez tout le temps, c'est ennuyeux.
Potentiellement, tu peux.
Voilà, mais c'est ennuyeux. Tandis que là, ok, en stratégie, je m'y connais, mais ça ne va pas se passer comme je veux, et donc je vais devoir essayer d'être encore meilleur, essayer de m'adapter à la situation pour justement réussir à gagner. Donc, il y a toujours de la stratégie, mais il faut savoir que la stratégie, elle pourra ne pas se passer comme prévu.
Alors, actuellement, et je vous invite ainsi, parce qu'il y a plusieurs paliers lorsqu'on crée un Kickstarter, et ici, les paliers sont un peu différents de d'habitude, parce qu'ici, on est à des paliers de « like ». Comment ça marche ? Ça se passe sur Facebook.
Alors c'est ça, ça se passe sur Facebook. Le but, c'est d'avoir le plus de likes sur la page. Et en fonction des likes, ça permettra d'avoir plus de choses dans la boîte de base pour tous ceux qui ont pris une version sur Kickstarter. Alors pourquoi j'ai fait ça ? C'est vrai que très souvent, justement, ces paliers sont faits par rapport à des pourcentages. Pourcentage justement de financement. Mais là, à chaque fois, moi, par exemple, quand j'allais sur un Kickstarter et que je me disais, j'ai pas envie forcément que ce que je vais obtenir dépende vraiment de quelque chose de payant, du nombre de personnes qui ont payé, etc. Là, justement, ça pousse plus à une communauté à venir et à voter de manière gratuite. En fait, il y a des gens, par exemple, qui veulent me soutenir, mais qui n'ont pas forcément les finances pour le faire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Ils peuvent tout simplement liker et ça va supporter le jeu. Donc, simplement, liker la page Jurassic 4, c'est un gros soutien pour le jeu, un gros plus pour tous ceux qui ont voulu obtenir le jeu, qui auront justement plus de...
Et si à terme, vous voulez acheter le jeu, il sera plus complet parce que vous avez participé à liker ça sur Facebook, Jurassic espace 4. C'est facile, n'hésitez pas, si vous nous écoutez sur Radio Campus à 19h42, de taper un petit like.
On peut même, je vois dans les paliers, si vous avez un chat, vous pouvez avoir votre chat dans le jeu.
Oui, ça c'est
plutôt classe. Hein.
Attention, c'est une récompense très limitée, mais oui, ça permet d'avoir son chat directement en jeu et dessiné par Ancestral Z. Alors Ancestral Z, c'est l'illustrateur du jeu, c'est ce qui rend justement le jeu vraiment magnifique et qui sort, le jeu sort vraiment du lot, c'est la première chose que l'on voit lorsque l'on, évidemment lorsque l'on a le jeu en main, c'est les graphismes d'Ancestral Z qui est vraiment, qui sort vraiment du lot, donc c'est le graphiste d'Ankama, du manga Dofus d'Ankama. Et il a vraiment son univers à lui, son univers graphique, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, forcément. C'est voilà pourquoi j'ai travaillé avec lui.
Connaissant la taille de la communauté d'Office, ça peut même attirer des gens.
Et ça peut attirer des gens. Bon, après, voilà, c'était pas forcément le but et j'allais pas forcément profiter de cela entre guillemets. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un graphisme agréable. En fait, comment j'en suis arrivé à lui ?
C'était ma question, justement.
C'était ta question, voilà. Tout simplement, j'ai travaillé 10 ans à Ankama. Donc ça fait pas mal de temps, et donc quand on travaille même, je pense, une journée en Kama, on connaît Ancestral. Je crois que c'est la meilleure description que je puisse faire.
Tu peux pas le rater.
On ne peut pas le rater. C'est un adulte hyperactif. C'est-à-dire qu'il va très très vite, il court tout le temps. Et quand il parle, il court aussi. Donc c'est vraiment très impressionnant, on le voit forcément. Au tout début, il était tout le temps en trottinette en Kama, jusqu'au jour où il s'est pris une vitre.
Ah, même sans trottinette.
Même sans trottinette, il est capable.
On a des dossiers, ça y est.
C'est ça. mais voilà, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et surtout, c'est un très talentueux graphiste qui va très très vite à produire son univers graphique. Et il avait produit beaucoup de choses, mais pas de jeux de société. Donc un midi, je me suis dit...
C'est étonnant parce que Ankama, ils ont une section jeux de société assez importante et ils produisent des jeux de société. Il y a encore des projets qui arrivent. Quoi,
c'est donc. Ça, mais ils ne travaillent pas dessus. Alors après, son graphisme, il n'est pas... On va dire, il va pas forcément plaire à tout le monde. Mmh. Voilà, c'est vraiment BD belge. C'est plus dans ce style-là. Voilà, il a vraiment son univers à lui. Donc c'est pas quelque chose qui est unanime en fait, qui est universel. Donc voilà, c'est peut-être plus compliqué pour une grosse boîte d'utiliser justement ce genre de graphisme. Alors voilà, c'est mon avis et je pense que c'est aussi l'avis de d'autres boîtes. Vu que au final, j'avais eu une proposition pour Jurassic 4 de la part de Gigamic. Il y a Gigamic qui était intéressé par Jurassic 4.
Donc une autre boîte du Nord.
Donc une autre boîte du Nord. Donc j'avais le contrat. Pendant 3 mois, on a discuté les termes du contrat. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'est ils voulaient le jeu sans les graphismes. Et peut-être même sans le thème et sans le titre.
Donc voilà, juste le concept.
Juste le concept et la mécanique, voilà, c'est ce qui les intéressait avant tout.
Ouais, ça arrive souvent avec les éditeurs.
Donc voilà, et donc pour eux, je pense que le graphisme, évidemment, le but de Gigamic, c'est que papy et mamie, ils arrivent à Pickwick et ils prennent le jeu et que ça leur fasse peur, ça leur fasse pas peur. Et les graphismes, bien d'Ancestral Z, on est moins en terre inconnue, donc forcément, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est vraiment.
D'ailleurs, c'est très sympa parce que sur la page du Kickstarter, on peut voir l'évolution. On voit les premiers dessins, les prototypes en noir et blanc, les premiers essais, les brouillons, jusqu'à l'évolution finale. Est-ce que ça serait l'évolution finale? Je ne sais pas, mais le prototype auquel on a joué avant l'émission, qui est déjà, c'est presque un jeu abouti, quoi.
Ouais, eh bien, est-ce qu'on est sur la version finale de ce prototype?
Oui, on est sur la version finale.
Parce que je pense qu'il était déjà bien rodé pour ce qu'on a joué.
C'est ça, la version que je vous ai ramenée, en fait, c'est juste que j'ai pu mes dernières boîtes parce que je les ai envoyées un petit peu partout en test, donc il ne me reste plus grand-chose. Mais finalement, je pense que dès le premier prototype, donc celui que j'ai dessiné à la main et qui est tout moche sur la page Kickstarter qu'on peut voir, le jeu était vraiment très semblable. Au final, il y a eu peut-être que quelques règles qui ont été modifiées et du texte sur les cartes. C'est vraiment ces ajustements-là qui ont été faits, mais le jeu n'a pas énormément évolué en 4 ans. Au final, c'était presque, dès le début, le jeu était fun. Et ça, c'est vraiment très rare quand on fait un jeu, c'est de voir que dès le début, c'est fun, dès le début, on s'amuse, alors que d'habitude, ça se travaille, c'est par itération. Et là, dès le début, j'ai eu quelque chose de fun, donc c'est encore plus simple de travailler et de justement d'améliorer les petites choses qui n'allaient pas.
Juste une petite question qu'on pose rarement, nous, quand on parle de Kickstarter. Kickstarter, généralement, tu fais ça pour faire un envoi postal derrière, pour les livrer directement.
Ça sert de précommande.
De précommande, oui. Voilà. Mais est-ce que tu as prévu une sortie boutique? Parce que justement, si tu fais une édition qui peut être assez rapide, vu qu'il y a, on va dire, peu de matériel, sans dénigrer, tu vois, est-ce que tu peux prévoir justement une livraison boutique et justement faire profiter les personnes qui n'ont pas fait de Kickstarter de pouvoir se le procurer aussi?
Alors, dans le Kickstarter, justement, il y a un pledge pour les boutiques où ils peuvent avoir justement un prix réduit dit.
Mais là, c'est aux boutiques de se contacter, de faire
la démarche. Voilà. Alors, moi, voilà, je ne suis pas du tout professionnel du milieu. Je n'ai pas forcément justement le temps de démarcher ça. Donc c'est quelque chose auquel je pense. S'il y a vraiment beaucoup de personnes qui pledgent, si jamais je peux avoir beaucoup de boîtes, j'essaierai justement d'en distribuer dans certaines boutiques.
Quitte à trouver un distributeur pro pour te le faire, quoi. Parce que
voilà, ça sera déjà bien plus simple si j'ai un distributeur. Maintenant, voilà, la campagne là, c'est une campagne française. Il y a des chances qu'elle fonctionne et qu'après, par la suite, dans un an ou deux, je lance une campagne américaine. Avec cette campagne américaine, je peux relancer des impressions et avec ces nouvelles impressions, dans ce cas-là, je peux peut-être commencer justement à bien trouver un distributeur pour, je ne sais pas, 500, 600, 1000 boîtes, etc. Voilà, 600 puis 1000. Hein, voilà.
C'était un choix de ne pas lancer les deux en même temps, de le faire en même temps en français, en anglais
C'est complètement un choix, c'est déjà assez compliqué et fatigant comme ça. C'est éprouvant en fait, une campagne Kickstarter, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, mais déjà c'est compliqué. En plus, Kickstarter, je suis désolé de dire ça, mais le site, il date des années 90.
Ça balance, c'est parti.
Non, vraiment, quand on édite la page, par exemple, on ne peut pas déplacer une image. Il faut la supprimer. Lorsqu'on la supprime, ça recharge la page, on revient tout en haut, et ensuite, on la remet. Il ne peut pas y avoir d'espace entre deux images. Si jamais il n'y a pas d'espace entre deux images, on ne peut plus mettre son curseur entre les deux images. Enfin, non, vraiment. Ah,
t'as l'impression d'insérer des images sur un Word ou un truc comme ça?
Word, c'est génial à côté. Word, c'est magique à côté. Je leur envoie un message en disant non, il y avait un souci parce que le moindre What I See is What I Get gratuit du net fait 100 fois mieux en fait. C'est juste honteux. C'est vraiment honteux. Et par exemple aussi, autre chose un peu compliquée avec Kickstarter, c'est qu'on ne connaît pas le nombre vraiment de visiteurs sur notre site et d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Donc ils ont mis des choses, on peut savoir qui a payé et d'où il vient, à partir du moment où il a payé, mais s'il n'a pas payé, on n'en sait pas, on n'a pas l'information. Donc il manque des choses, c'est quand même étonnant, parce que c'est quand même eux les leaders, enfin, et de loin, et puis ils se font quand même un paquet de pognon sans faire grand-chose, dénigrer. Sans dénigrer, ils doivent quand même héberger et maintenir un petit peu tout, mais voilà.
Vous ne pouvez pas ajouter des tags pour savoir d'où vient la personne?
On peut ajouter un tag pour savoir d'où elle vient si elle a payé.
Voilà.
Uniquement
quand elle a payé.
Donc au niveau du trafic.
Au niveau du trafic, on ne sait pas d'où ça vient. D'accord. Hein, c'est ça. On n'a pas d'infos sur le trafic. Donc ça, c'est un peu gênant. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui seraient améliorées, qui sont dommages, enfin, qui sont surtout très dommageables pour le leader, en fait, tout simplement.
Et voilà, on compte sur vous. Hein. Jurassic Cats est aux portes de.
C'est facile à trouver. Donc
démarrer le projet.
Sur le site Kickstarter, il suffit de chercher Jurassic avec un C, Cats. Sur, on peut suivre le projet sur Facebook, évidemment.
Alors, surtout, le suivre sur Facebook, même si vous n'allez pas participer et vous comptez acheter le jeu de société plus tard, ça vous permettra d'avoir des features en plus et ça coûte qu'un clic.
C'est ça.
Qu'un seul like. C'est génial.
Et surtout, vous faites profiter à tout le monde.
Alors, et pour... On a fait une partie où on s'est quand même bien amusé. On s'est limite un peu tapé dessus à certains moments, ce qu'on attend de tout bon jeu de société. Alors,
c'est vrai qu'en salon, j'ai eu beaucoup de couples qui sont arrivés ensemble et qui ont failli repartir séparés.
C'est bien. C'est,
ça a toujours été
quand,
un petit
c'est
peu...
quand tu mets de l'affect perso dans la partie, il n'y a pas lieu d'être.
C'est ça. Mais non, ça s'est très bien passé. Enfin, j'ai eu pas mal justement d'expériences assez amusantes lors des salons où justement je présentais le jeu aux gens. Donc déjà, pour rameuter les gens, c'était quand même assez facile. Hein. Il suffit que je me ramène vers les gens et je dis « Bonjour, est-ce que vous voulez capturer des dinosaures avec des chats ?»
C'est clair.
Succès garanti. Je pense qu'il y a eu peut-être vraiment sur toutes les personnes, il y en a eu des centaines. Hein. Il y a eu une fois, on m'a dit « Ah non, merci ». Mais vraiment, je me suis dit « Tiens, bon ».
C'était ma première réaction quand j'ai vu les chats. Hein.
Mais bon. Voilà, c'était peut-être des personnes qui n'aimaient pas les chats.
Il m'a dit « Mais non, il y a des dinosaures, t'inquiète pas ». Donc je me suis dit « Ok ».
Après, connaissant les salons qui sont devenus ultra populaires depuis 2-3 ans, quand quelqu'un leur dit « Je peux te trouver une table et te faire jouer », les gens disent, quel que soit le jeu, ils jouent. Parce qu'ils en ont marre de tourner pendant 2-3 heures.
Alors, c'est vrai, mais là, c'était sur des petits salons, par exemple, la gare, où là, il y avait toujours des places. Bon, tu vois, ça allait, donc non, ça se passe bien. La phrase d'accroche, elle marche bien.
Parce que ça devait marcher pour l'Udinor, par contre.
Ouais, à l'Udinor, ouais, voilà, par contre, oui, c'était très efficace. J'ai une table, là, les gens viennent, il y a du monde, forcément, ça passe.
C'est ça, puisque ta vidéo de présentation date de l'Udinor 2019.
C'est ça, oui, c'est une Ludovox, et ils étaient venus justement parler des jeux sélectionnés. Donc, déjà, rien qu'être sélectionné à l'Udinor, c'est déjà une grande victoire. Hein. Il faut savoir qu'ils reçoivent plus d'une centaine de protos et qu'il n'y a que 10 places. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, c'était déjà une bonne victoire. Bah, je crois qu'en 2018, oui, j'avais postulé, j'avais pas été sélectionné. Donc, j'avais changé quelques textes. Entre-temps, le jeu leur semblait trop aléatoire. Donc, j'avais changé quelques textes pour rendre ça un petit peu...
Tu l'as échappé belle, puisqu'on le rappelle, en ce moment, les salons de jeu, c'est un petit peu la misère. Les derniers où je suis allé, il y avait plus d'animateurs que de joueurs parce que les gens... Avec les distances, le public a un petit peu peur de venir, etc.
Et les barrageux aussi. En fait, les barrageux, voilà. Ça devait faire partie de ma communication pour la sortie du Kickstarter. Donc voilà, c'est un peu compliqué tout ça. Mais pour revenir au salon, oui, vraiment, j'ai eu vraiment des bons moments, des moments très amusants. Par exemple, sur le jeu, en fait, c'est toujours au joueur le plus poilu de commencer. Mm-hmm. Donc forcément, je prenais toujours le plus jeune, un enfant pour demander, etc. C'est toujours rigolo. Ou alors une fille, c'était toujours assez amusant. Et à un moment, je fais donc un petit garçon de 10 ans, c'est toi le plus poilu, tu commences. Et là, sa mère se met à rire, mais oui, c'est vrai. Donc là, gros moment gênant un petit peu à la table, et moment encore plus gênant quand le père me regarde et dit, mais comment il sait ça, lui? Et donc, ça va, elle l'a regardé, elle a dit, mais non, il rigole, mais je me sentais pas très bien. Et donc, il y a eu beaucoup de moments vraiment, vraiment sympathiques de partage, justement, avec les joueurs qui passaient. Le truc aussi qui était très frustrant lors des salons, c'est que la plupart des joueurs, après avoir joué, voulaient me l'acheter. Or c'était du prototype.
Ça arrive souvent.
Et forcément, je l'ai pas sûrement. Donc c'est vraiment très très frustrant quand on fait une journée et qu'on a une quarantaine de personnes qui demandent à l'acheter et nous, on a rien du tout à leur donner.
Oui. Ouais. Et puis à ce moment-là, tu avais peut-être pas encore même pas l'adresse du Kickstarter.
Je n'avais rien du tout. Non.
Est-ce qu'on t'a déjà fait le coup mais ce sont des cartes. Envoyez-moi le fichier, je peux me l'imprimer. Dites-moi juste combien ça coûte le
Alors,
fichier.
Alors, mais justement,
non,
parce
mais
que
ça, sérieux, si... on me l'a déjà fait aussi. Donc c'est pour ça que je te le propose. Hein.
Et non, j'ai eu personne. J'ai eu personne. Personne ne m'a demandé ça.
Mais pour te dire le côté grossier de la chose, c'est j'ai testé ton jeu.
J'ai pris des photos. T'inquiète, je les imprime chez moi.
Donne-moi ton prix, envoie-moi ton fichier. Il y a pas de problème. Je me l'imprime.
En fait, le problème, c'est de se l'imprimer, c'est que ça sera pas sur du papier de bonne qualité. Voilà, en plus, c'est des cartes de formes différentes. Et quand je vais en salon, j'ai mes beaux petits steaks qui sont mignons à prendre en main. Et là aussi, c'est cette expérience, on va dire, de développeur de jeux vidéo qui m'a permis justement de comprendre un petit peu ce qui était intéressant. En fait, c'est tout. Il y a le jeu qui est intéressant, il y a les règles, mais il y a aussi tout ce qui est autour. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit ludique, il faut que ça ait l'air d'un jouet. Et par exemple, les cartes, il y a des cartes de tailles différentes. Il y a les steaks sont différents à prendre en main. Et en fait, ce petit côté-là, ce petit côté tactile, le fait que ce soit différent, bah, c'est ce qui marche aussi, c'est ce qui fait que le jeu va se démarquer par rapport aux autres. Moi, je sais que j'avais, par exemple, demandé pour un devis pour une production, et tout de suite, on m'a conseillé de ne faire que des cartes, en fait. Ça revenait largement moins cher, hein, forcément, oui, que des cartes, ça
coûte rien. Si tu restes au format 52 cartes, c'est encore moins cher.
Et là, justement, j'avais aucune question à poser, et j'ai dit, mais non, moi, je veux absolument que le jeu soit ludique, qu'il sorte du lot, et un jeu, en fait, c'est pas juste des règles, c'est aussi vraiment sa manière de le jouer, sa manière de le toucher, sa manière de l'appréhender pour le joueur, et c'est pour ça qu'il y a des beaux graphismes, c'est pour ça qu'il est agréable à jouer. C'est pas juste, voilà.
C'est vrai que graphiquement, il envoie quand même. On est vraiment sur un jeu, on a l'impression de l'avoir acheté en magasin, alors qu'ici, on est sur un Kickstarter. C'est vraiment plaisant. Alors, on vous le rappelle, Jurassic Cats. Ça ne coûte rien de faire soit un like ou même de participer au projet, puisqu'on est vraiment aux portes de l'avoir, d'avoir votre propre édition à la maison.
Dès un jour.
C'est ça, c'est ludique, c'est familial, c'est du challenge entre copains.
Et c'est rapide. Parce que souvent, on a des gros jeux et puis on n'a pas le temps de lancer une partie. Et là, au moins, en un quart d'heure, la partie, elle est pliée. On a le temps de relancer une.
C'est ça. On te remercie beaucoup, Aurélien, d'avoir participé à cette émission. Tu reviens quand tu veux. Hein. Tu peux mettre un petit post-it sur ta place pour revenir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, Dominique.
Absolument.
Reynald ?
Tout à fait.
Très bien, pour une prochaine émission.
On parlera de bar. On parlera du festival Barbare, qui a lieu tous les ans, enfin, sauf cette année, bien sûr, qui va prendre une forme un petit peu particulière cette année. On va recevoir Camille, qui va nous en parler.
Et on se quitte avec un vinyle de luxe et de choix. C'est Mister T.
Intro et fin en vinyle.
On n'a même pas testé le vinyle d'ailleurs. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À la prochaine.
Take them out and buy nice things. love them, treat them like the jewels they are. Remember, honor thy mother and father.
Du campus.